Jean Gaillon est né en 1949, il est agrégé de philosophie, docteur en philosophie, mais il a fait aussi des études de biologie et de génétique. Il a été professeur de philosophie au lycée, puis à l'université, il a été professeur à l'université de Dijon, à l'université de Bourgogne, et il est maintenant professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot, où il enseigne l'épistémologie et l'histoire des sciences de la vie et de la santé. Alors, je signe. Bon, il est membre de nombreux groupes de recherche et de nombreuses associations. C'est un chercheur et un philosophe distingué. Mais ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est ses publications, parce que souvent vous nous demandez quelles sont les publications. Donc, je vous indique volontiers que vous pouvez trouvé aux éditions Quimet de 1992. Ça, on va mieux l'indiquer sur le site internet. C'est pas encore très bien indiqué. Un livre qui s'appelle Darwin et l'après-Darwin, une histoire de l'hypothèse de sélection naturelle. Donc c'est en plein dans notre sujet. Et puis d'autres livres comme Les figures de la forme en 1992, Le paradigme de la filiation en 1995, etc. Mais je signale tout particulièrement son livre Darwin et l'après-Darwin, une histoire de l'hypothèse de sélection naturelle qui met en 1992. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long et je lui donne la parole. Merci.
Je remercie Yves Michaud et l'Université de tous les savoirs pour leur très aimable accueil, mais je suis particulièrement touché de voir un public aussi abondant. Un dimanche matin. Je dois dire que moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, sauf dans des circonstances très graves. Alors, il faut croire donc que la théorie de l'évolution est devenue pour les Français quelque chose d'important. Il y a là d'ailleurs un paradoxe historique. C'est qu'il n'y a quasiment aucune grande nation scientifique au monde qui n'ait montré une telle résistance pour le genre de théorie qui s'est développée sous ce nom à partir de la fin du 19e siècle. Alors, je parlerai donc de la théorie de l'évolution, comme l'a souhaité Yves Michaud. Le titre est un petit peu présomptueux, car quoique formé à la biologie, je ne suis pas un biologiste praticien ou pratiquant. J'ajouterai donc un sous-titre à cette présentation qui en précisera bien les limites. Je vais essayer de montrer ce que signifie aujourd'hui darwinisme, l'expression darwinisme, dans la théorie de l'évolution. L'idée d'une transformation des espèces dans le cours des temps géologiques remonte à la fin du XVIIIe siècle. On mentionne souvent le nom de Lamarck comme une étape importante dans la maturation de cette idée. Toutefois, je crois qu'il n'est guère possible de parler de théorie de l'évolution avant Darwin. On peut parler d'une idée de l'évolution, mais sans doute pas d'une théorie. Si le livre publié en 1859 par Charles Darwin sous le titre L'origine des espèces a marqué tant d'esprits, c'est parce que ce livre était entièrement consacré à présenter en 490 pages une théorie consistant à justifier l'idée selon laquelle les espèces descendent les unes des autres et aussi à proposer un mécanisme explicatif pour ce phénomène de descendance avec modification. Le mécanisme en question, Darwin l'appelait bien entendu sélection naturelle. Darwin n'a d'ailleurs jamais appelé sa théorie théorie de l'évolution. Il l'appelait théorie de la descendance, c'est-à-dire le lignage des espèces, théorie de la descendance avec modification par sélection naturelle. C'est le seul label qu'il ait jamais admis. Cependant, très vite, dans les années 1860, la communauté scientifique et le grand public en général a appliqué sans scrupule l'expression théorie de l'évolution à Darwin. Celui-ci, à contre-cœur, a finalement accepté, dans la sixième et dernière édition de L'Origine des espèces, en 1872, le mot d'évolution qu'il utilise trois fois en 490 pages dans la dernière édition de son ouvrage. Après Darwin, de nombreuses théories concurrentes ont été proposées. Il y en avait une, d'autres pouvaient exister. Il est clair que depuis maintenant 140 ans, le sort de la théorie de l'évolution s'est cependant trouvé associé au nom de Darwin, plus qu'à tout autre. En témoigne l'importance exceptionnelle dans tous les débats sur l'évolution de la fin du XIXe siècle et de la totalité du XXe, du mot même de darwinisme. Il y a là quelque chose de tout à fait exceptionnel à ce que sur une aussi longue période, une théorie scientifique soit associée à un nom propre. Darwinisme, c'est en effet le nom populaire d'une tradition scientifique particulière qui a plus ou moins dominé l'étude de l'évolution depuis les années 1860. Cette tradition, on l'a déclarée plusieurs fois morte, au moins deux fois au XIXe siècle et au moins deux fois au XXe. Plusieurs fois, elle s'est trouvée restaurée dans des versions nouvelles. Et je le rappelle donc, nous avons affaire pendant 140 ans à une tradition scientifique qui ne peut se passer d'une référence à un nom propre. Bien entendu, les spécialistes de l'évolution pourraient aujourd'hui se dispenser de toute référence à Darwin. Ils le font souvent d'ailleurs dans le contexte de certaines universités américaines où la seule mention du mot ou de celui de sélection naturelle, un mot dont on peut se passer aussi tout en faisant la théorie, suscite de l'urticaire. Mais en pratique, les biologistes ne le font pas, ni dans leurs discussions savantes, ni face au public. On ne peut donc qu'être impressionné par l'insistance avec laquelle les débats les plus récents sur l'évolution ont été formulés dans un langage qui fait explicitement référence à l'auteur, au nom de l'auteur de L'Origine des espèces. En particulier, depuis le milieu des années 1970, l'on a vu fleurir une littérature considérable sur des alternatives possibles au néo-darwinisme, et corrélativement, bien sûr, une littérature non moins abondante sur la vitalité du darwinisme. Cette référence persistante d'une discipline scientifique bien établie à un individu constitue, je le répète, une situation exceptionnelle dans l'histoire de la science moderne. Les physiciens d'aujourd'hui, pour ne prendre qu'un exemple, se réfèrent sans doute périodiquement à Einstein, Bohr ou Heisenberg ou Schrödinger. Mais ils n'ont pas, avec les pères fondateurs par exemple de la théorie de la relativité ou de la mécanique quantique, ils n'ont pas un dialogue aussi intense et aussi structurant avec ses pères fondateurs. L'objet de ma conférence est de clarifier le sens de cette référence obsessionnelle à Darwin. Ma question sera donc, que signifie pour un biologiste de l'évolution aujourd'hui que de se dire ou d'être qualifié darwinien ou non-darwinien? En répondant avec précision avec cette question, du moins c'est mon intention, j'espère contribuer, en tant que philosophe, à une meilleure compréhension de l'état actuel de la théorie de l'évolution et de ce que cela signifie précisément que ce soit une théorie. Je montrerai en particulier que les critiques modernes du darwinisme peuvent se ranger dans deux grandes catégories que je forge à partir des réflexions spontanées, des réflexions philosophiques spontanées de Darwin lui-même sur le statut du principe de sélection naturelle. Le darwinisme est donc une tradition de recherche qui, en tant que telle, ne peut être identifiée avec la pensée de Darwin en bloc. Je m'explique. Nombreuses sont les idées de Darwin qui n'ont pas grand rapport avec ce que l'on entend aujourd'hui par darwinisme. Par exemple, la théorie darwinienne de l'hérédité, si importante pour l'auteur de L'Origine des espèces, s'appelle théorie de la pangenèse. Cette théorie implique la forme la plus radicale d'hérédité des caractères acquis qui ait jamais été proposée. Cette théorie est darwinienne au sens où elle appartient à l'œuvre de Darwin, mais elle n'est aucunement darwinienne au sens où l'on utilise le mot de darwinisme dans les débats sur l'évolution du XXe siècle. La théorie de la pangenèse n'est pas un élément de cette tradition de pensée que l'on qualifie depuis longtemps comme darwinienne dans la pratique quotidienne des études sur l'évolution. Pour comprendre le sens de la référence à Darwin, il ne faut pas se contenter de citer l'auteur, il faut construire une hypothèse sur le rapport entre le modèle et la copie. Le modèle Darwin, la copie historique darwinisme. C'est ce que fait plus ou moins consciemment tout évolutionniste qui fait usage des qualificatifs de darwinien ou de non-darwinien. Le biologiste darwinien de l'évolution sait intuitivement, je dis bien intuitivement, assez bien ce qui lui rend la référence à Darwin agréable et plausible, même si d'ailleurs il a très rarement lu avec attention les écrits de Darwin, s'il les a jamais lus. Il en va de même du biologiste anti-darwinien. Il a une perception en général intuitive de ce qui motive son anti-darwinisme, perception qui ne passe pas le plus souvent par une relecture attentive de Darwin. De cet état de fait, il serait tentant de conclure qu'après tout, ce qu'a réellement dit Darwin n'a aucune importance en l'affaire et que l'expression de darwinisme est une expression linguistique conventionnelle qui mérite d'être découplée de l'œuvre de Darwin. Ce serait, disons, sociologiquement assez sage. Dès lors, il en irait du darwinisme et de l'anti-darwinisme, je dirais bien comme de la droite et de la gauche en politique. Tout le monde comprend ce que cela veut dire à un moment donné que d'être de droite ou de gauche, mais il est clair que ces mots ont changé de sens au cours de l'histoire. Je crois cependant que l'on peut introduire un peu plus de rigueur en la matière qu'on ne le fait d'ordinaire et qu'il n'est pas aberrant d'explorer une hypothèse, à savoir l'hypothèse selon laquelle il y a une réelle continuité historique entre certains éléments de la pensée évolutionniste de Darwin et d'autre part le darwinisme d'hier et d'aujourd'hui. Je fais donc l'hypothèse qu'il y a un rapport entre Darwin et le darwinisme. Il n'est d'ailleurs pas strictement vrai que Darwin ne soit pas lu par les biologistes. À la différence de la plupart des savants de la fin du XIXe siècle, que plus aucun scientifique ne lit aujourd'hui, sauf s'il s'intéresse à l'histoire des sciences, quand il arrive à l'âge de la philopause, comme on dit quelquefois, Darwin n'a cessé d'être publié et lu tout au long du XXe siècle par d'innombrables biologistes. La plupart des rééditions ont d'ailleurs été faites par de grands biologistes de ce temps, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson, par exemple. Comme Darwin n'a cessé par ailleurs d'être lu pour d'autres raisons évidentes, sociales, politiques, religieuses, il est raisonnable de penser que les textes mêmes de Darwin ont assez circulé et continuent aujourd'hui à circuler assez pour que l'hypothèse d'un rapport causal objectif et direct entre Darwin et le darwinisme soit prise au sérieux. Le nom même a un impact tel, au fond, que cette hypothèse doit être faite. Je me souviens récemment que lors de la traduction d'un livre que j'avais écrit et que je souhaitais publier en anglais sans mettre Darwin ou darwinisme dedans, l'éditeur m'a répondu « Nous le publions à condition qu'il y ait soit Darwin, soit darwinisme dans le titre ». Livre destiné essentiellement à des biologistes et des historiens. La difficulté, cependant, est que ce rapport entre Darwin et le darwinisme n'est quasiment jamais explicité. Il fonctionne. Il fonctionne tout simplement selon des codes sociaux manifestement efficaces, sans avoir besoin d'être transparent. Je m'en vais maintenant proposer une hypothèse sur la nature de ce rapport, en partant des réflexions explicites de Darwin sur le statut philosophique du principe de sélection naturelle. Darwin avait eu une formation initiale de théologien à laquelle il a renoncé assez vite, dans la mesure où ses convictions religieuses ont vacillé. Cette formation théologique, donc d'université écossaise, faisait qu'il connaissait bien le langage philosophique, comme d'ailleurs la plupart des savants du XIXe siècle, et particulièrement les savants anglais. Darwin a utilisé trois termes philosophiques. On dirait aujourd'hui trois termes épistémologiques. Je préfère dire philosophique, ça me semble être une meilleure qualification. Trois termes pour qualifier le statut du principe de sélection naturelle. Hypothèse, théorie, pouvoir. Les deux premiers termes, hypothèse et théorie, se rapportent à la structure de la théorie de la sélection naturelle, et en particulier aux formes de sa justification. Le terme de pouvoir intervient dans des contextes différents et concerne la signification causale de la sélection naturelle. Je commence par la distinction faite par Darwin. J'aimerais bien avoir le texte, s'il vous plaît. La distinction faite entre l'hypothèse et la théorie de la sélection naturelle. Cette distinction est très clairement exprimée dans un ouvrage autre que l'Origine des espèces, intitulé « La variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication », publié en 1868. Dans l'introduction de ce livre, Darwin répond en une fois à toutes sortes d'objections qui ont été adressées à son livre dans les 9 années qui avaient précédé, et en particulier l'objection qui lui faisait le plus mal, qui venait d'une part de biologistes, d'autre part de philosophes qu'il aimait, et qui consistait à dire que cette théorie n'était pas clairement une théorie scientifique. On ne voyait pas de quel genre de science il s'agissait. Voici ce qu'il dit donc en un point de cette introduction, dans un passage très solennel. J'espère que ce texte est lisible sur l'écran. Je le ferai défiler et je vous demanderai de bien vouloir en peser les termes qui nous seront indispensables pour comprendre un peu plus tard les défis adressés aujourd'hui au darwinisme. Alors, je lis donc simplement ce texte. Où le vocabulaire philosophique est pesé avec une précision qui est tout à fait impressionnante. Dans les recherches scientifiques, il est licite d'inventer une hypothèse quelconque. Si celle-ci explique de grandes classes de faits indépendants, on l'élève au rang de théorie bien établie. Donc il est clair pour Darwin que la sélection naturelle, car il s'agit d'elle, est une hypothèse inventée. Ça n'est certainement pas quelque chose de constaté ou d'observé. C'est plutôt tout le contraire. On peut envisager, poursuit-il, le principe de sélection naturelle comme une simple hypothèse. Une simple hypothèse, une mere hypothesis, rendue cependant probable. Alors là, c'est une formule très bizarre. Rendu cependant probable par ce que nous savons positivement de la variabilité des êtres organiques à l'état de nature, de la lutte pour l'existence, de la préservation quasiment inévitable des variations qui s'ensuit et de la formation analogique des races domestiques. Nous avons là donc l'affirmation que le principe de sélection naturelle est bien une hypothèse inventée, c'est une libre invention de l'esprit, mais cette libre invention de l'esprit est appuyé sur un certain nombre de données empiriques sur lesquelles elle s'appuie pour être avancée. Nous verrons ce que cela signifie par la suite. Puis Darwin continue. Cette hypothèse peut être testée. Et c'est là, à mon sens, la seule manière honnête et légitime d'aborder la question dans son ensemble, en examinant si elle explique plusieurs grandes classes de faits indépendants, telles que la succession géologique des êtres organiques, leur distribution dans les temps passés et présents, leurs affinités mutuelles et leurs homologies, si le principe de sélection naturelle explique, mot très important, s'il explique bien ces grands ensembles de faits, elle doit être acceptée. Alors, ce texte que je vais maintenant commenter un peu montre d'abord que Darwin était très bien informé sur le vocabulaire technique de ce que l'on commençait à appeler à l'époque la philosophie des sciences, tout particulièrement la philosophie des sciences inductives. Terme de Whewell, le philosophe anglais qui, dans les années 30, avait publié un livre, 1830, Histoire et philosophie des sciences inductives. Whewell, souvent avec mes étudiants, j'insiste sur, en particulier les étudiants anglais qui ne sont pas plus avancés que les étudiants français, j'insiste sur la prononciation. Ça s'écrit W-H-E-W-E-2-L, c'est Whewell. Ce vocabulaire lui permet, le vocabulaire technique de Darwin lui permet de présenter la structure argumentative profonde de l'origine des espèces avec une remarquable clarté. Ce que d'ailleurs il n'avait pas fait dans l'ouvrage de 1859. Pourvu de ce texte, nous savons que l'ouvrage n'a pas simplement 12 chapitres, mais qu'il a en réalité deux parties. Considérons en effet d'abord l'aspect hypothèse de la sélection naturelle, ce que Darwin appelle, si l'on pouvait redonner le texte, la simple hypothèse de la sélection naturelle. La simple hypothèse rendue probable par certaines généralisations empiriques. Lorsque Darwin écrit cette formule, ce premier paragraphe, il pense en fait aux cinq premiers chapitres de l'Origine des espèces, où la sélection naturelle est donnée comme la conclusion d'un raisonnement fondé sur une série de prémices qui ont valeur de généralisations empiriques. Ces prémices portent sur le taux de reproduction des organismes, sur la limitation des ressources, sur l'effet de variation et d'hérédité, et en particulier aussi sur l'amélioration des espèces domestiques. La formation analogique des espèces domestiques, d'ailleurs, qui est mentionnée à la fin de ce paragraphe, n'a pas tout à fait la même valeur dans l'argumentation. En fait, dans l'origine des espèces, la sélection naturelle est d'une part la conclusion d'un raisonnement consistant à dire, grosso modo, les organismes se représentent toujours plus qu'il n'est nécessaire, il y a donc un principe de concurrence qui opère entre eux, certaines variations sont héréditaires, certaines parmi ces variations héréditaires sont avantagent les organismes dans leur lutte pour la survie et la reproduction, donc quelque chose qui, au bout du compte, s'appelle sélection naturelle. Ça, c'est un raisonnement probabiliste, mais qui consiste à dire que l'hypothèse de sélection naturelle est très fortement suggérée par un certain nombre de généralisations empiriques accumulées dans le cours de la science des 18e et 19e siècles. L'allusion à la formation des races domestiques a un statut différent. En effet, dans l'origine des espèces, Darwin ne fournit pas un seul exemple d'un cas de sélection naturelle. Il n'en sera d'ailleurs pas établi un seul cas par des preuves directes avant 1947. Il lui est donc essentiel de fournir un modèle artificiel. La sélection artificielle, en effet, est quelque chose qui était bien connu des biologistes, qui produisait des effets. Et en mettant en avant la sélection artificielle, Darwin pouvait dire que ce n'est pas tout à fait pareil que la sélection naturelle, mais il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont les mêmes. Différences individuelles, variations, hérédité, principe de l'avantage, puisque évidemment l'éleveur choisit évidemment ce qu'il veut. Il y a un certain nombre d'éléments communs. Nous voyons que la sélection artificielle modifie les espèces. C'est donc là un argument important en faveur de la plausibilité d'un phénomène analogue dans la nature. En ce qui concerne maintenant la deuxième phase de la justification de la sélection naturelle, hein, ce que Darwin appelle la théorie bien établie, la théorie par rapport à la simple hypothèse, c'est une claire référence au chapitre 7 à 12 de l'Origine des espèces, où la sélection, dont on admet désormais la plausibilité d'existence dans la nature, joue le rôle d'un principe, au vieux sens que ce mot avait dans les sciences depuis l'Antiquité, à savoir un, un énoncé qui explique diverses classes de faits. Vous notez d'ailleurs que Darwin insiste sur le fait que la sélection naturelle est un principe susceptible de rendre compte, de rendre intelligible des classes de faits indépendants. Quelles sont ces classes de faits indépendants? Il en cite quelques-uns ici. Ce sont l'extinction des espèces, leur divergence, c'est-à-dire l'éclatement d'espèces en deux espèces, la distribution géographique des espèces, la distribution de la documentation fossile, les affinités morphologiques, l'embryologie comparée, l'allure générale de la classification. Je viens de donner simplement le plan de la seconde moitié de l'origine des espèces, peu importe le détail, mais il s'agit bien de dire, voyez ce principe de sélection naturelle, ce n'est pas simplement quelque chose qui probablement existe dans la nature, mais qui pourrait bien n'avoir aucun intérêt, des choses qui existent, mais qui ne sont pas très intéressantes pour le scientifique, mais c'est un principe qui est susceptible d'expliquer beaucoup de choses différentes dans l'histoire naturelle de la vie et d'unifier l'histoire naturelle. Alors, cette seconde stratégie de justification de l'hypothèse est ce que l'on appelle traditionnellement, en méthodologie scientifique, une justification par les conséquences. L'hypothèse est bonne et acceptable parce qu'elle permet d'expliquer des choses différentes, des choses indépendantes. Hein, autrement dit, ça n'est pas une hypothèse ad hoc. L'hypothèse se trouve justifiée donc par sa capacité explicative et par sa capacité à unifier un domaine qui n'est rien d'autre que l'ensemble des études sur la vie. Il y a ainsi pour Darwin deux niveaux de justification de la sélection naturelle. Le premier consiste en des arguments capables de prouver ou au moins de rendre hautement plausible l'existence du processus de sélection dans la nature. Et d'autre part, le second niveau de justification est une justification par les conséquences de l'hypothèse qui a pour enjeu rien de moins qu'une reconstruction de l'édifice de l'histoire naturelle de la vie. Avec ces deux volets caractéristiques, cette méthodologie nous rappelle quelque chose en histoire des sciences. Il est d'ailleurs absolument extraordinaire qu'aucun lecteur de l'origine des espèces n'ait perçu ce fait avant que Darwin ne l'ait solennellement rappelé en 1868. En effet, cette méthodologie est conforme, dans son vocabulaire même, à la stratégie traditionnelle de confirmation des hypothèses admise dans les sciences physiques depuis Newton et, à vrai dire, sur le modèle de Newton. Modèle que l'on appelait traditionnellement et conventionnellement depuis le milieu du XVIIIe siècle, par référence à une expression de Newton, l'idéal de la vera causa, c'est-à-dire la cause vraie et non fictive, cause confirmée par les phénomènes indépendants qu'elle explique. Souvenez-vous de Newton. Newton, dans une édition tardive des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, et avait expliqué sa stratégie de justification du principe de gravitation universelle en disant, premièrement, ce principe est suggéré par des données empiriques. Deuxièmement, il est capable d'expliquer beaucoup de classes de faits indépendants. Et cette justification a été reprise en cœur tout au long du XVIIIe siècle. Elle consiste à dire donc, le principe de gravitation est bien sûr abstrait, il ne se prête à aucune observation directe, mais il est d'une part suggéré par des faits, d'autre part, il permet d'expliquer, il permet de redéduire, par exemple, la loi de chute des corps, les lois du mouvement des planètes de Kepler, il permet de rendre intelligible le rythme des marées, il permet d'expliquer la loi des petites oscillations du pendule de Huygens, il permet d'expliquer aussi, et entre autres, la forme ellipsoïdique et aplatie de la Terre, et bien d'autres choses encore. Dans les années 1830, deux philosophes anglais, d'ailleurs d'éminents représentants de la théologie naturelle avec laquelle Darwin avait tant à maille à partir, Whewell et Herschel, les deux premiers philosophes des sciences en Angleterre, ont élaboré de manière systématique cette notion de vera causa. en disant voilà désormais le modèle auquel doivent se référer, selon lequel doivent se construire toutes les sciences naturelles. Les hypothèses, quoique librement inventées, doivent être suggérées par des faits. D'autre part, pour n'être point ad hoc, elles doivent rendre compte de classes de faits indépendants. Ces textes sont des textes des années 1830. Nous savons, par des enquêtes historiques minutieuses, que Darwin a pris conscience des textes fondamentaux de Herschel et Whewell en 1838, c'est-à-dire quelques mois après qu'il ait eu la première idée de la sélection naturelle, qu'il n'appelait pas d'ailleurs de ce nom-là à l'époque. Nous savons aussi que de 1832 à 1844, lorsqu'il a élaboré sa théorie, il l'a fait de manière consciente en cherchant à la mouler selon ce modèle épistémologique. Il en est sorti en 1844 un livre non publié qu'il a consciencieusement déposé chez un ami au cas où, chez Hooker, livre de 200 pages qui est l'ébauche de ce qui devait s'appeler 15 ans plus tard l'origine des espèces. Après la publication de l'ouvrage, Whewell et Herschel ont précisément attaqué l'ouvrage de Darwin en disant « mais justement, ce n'est pas de la science, ça ». Consternation de Darwin, il avait justement cherché à se confirmer à l'idéal newtonien de la vera causa. Nous ne sommes donc pas surpris de le voir en 1868 rappeler solennellement à deux personnes pour lesquelles il avait beaucoup d'estime, Whewell et Herschel, qu'il avait cherché à être rien de moins, au fond que ce qu'on espérait peut-être ce qu'espéraient être beaucoup de naturalistes depuis une centaine d'années, le Newton de la biologie. Et pour être le Newton de la biologie, le mieux était encore de copier précisément le modèle épistémologique du physicien. Darwin emploie un troisième terme philosophique pour qualifier la sélection naturelle. Terme plus évident, plus naïf et qui le mène d'ailleurs à une rhétorique plus discutable. Ce troisième terme est celui de pouvoir, power, qu'on pourrait rendre aussi en français par puissance. Ce vieux terme philosophique, je crois que ça dira quelque chose à mon ami et collègue Yves Michaud, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie de David Hume, ce vieux terme philosophique, traditionnellement synonyme de cause, puissance, agent, efficace, est fréquemment utilisé dans l'origine des espèces. Non sans imprudence et naïveté d'ailleurs, lorsque l'auteur évoque la capacité quasi illimitée de la sélection naturelle à améliorer l'adaptation des organismes à leur environnement. Voici deux extraits justement assez audacieux et un peu naïfs de la part de Darwin. Ils n'ont pas manqué d'être pointés par beaucoup de gens qui ont pris leur distance par rapport à l'origine de l'espèce, qui montre comment Darwin tente à présenter le principe de sélection naturelle comme une puissance naturelle sans limite, dans le contexte précis, bien entendu, de l'adaptation des espèces. Premier texte, on peut dire que la sélection naturelle scrute à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Tout ce qui peut se présenter donc à un tri. Elle repousse celles qui sont nuisibles. Elle œuvre et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organiques et inorganiques. Quel beau principe, puisque justement ces conditions changent tout le temps, ce que nous apprenait la géologie du XIXe siècle. Eh bien, il y a une puissance qui est capable, au fond, d'ajuster en permanence les organismes à leurs conditions de vie changeantes. Ce passage se trouve au tout début du chapitre sur la sélection naturelle. Il y a une déclaration encore plus impressionnante, moins souvent citée, sans doute d'ailleurs parce qu'elle a été très mal traduite en français et en allemand, donc je vais proposer ici une traduction un peu plus précise, qui est beaucoup plus impressionnante encore. Quelle limite pourrait-on fixer à ce pouvoir agissant continuellement à travers les temps, c'est dans la conclusion, et scrutant rigoureusement la constitution, la conformation et les habitudes de chaque créature, pour favoriser ce qui est bon. Alors là, c'est quasiment « that is good ». Pour favoriser ce qui est bon, et rejeter ce qui est mauvais, bad. Hein? Bon. Je ne peux concevoir aucune limite à ce pouvoir. I can see no limit to this power. Je ne peux concevoir aucune limite à ce pouvoir qui adapte lentement et admirablement chaque forme aux relations les plus complexes de la vie, même si l'on ne regardait pas au-delà. Alors là, la phrase est éblouissante. La théorie éblouissante de naïveté, même si l'on n'allait pas au-delà de ça, parce que ça semble quand même déjà aller assez loin, hein, même si l'on ne regardait pas au-delà, la théorie de la sélection naturelle me paraît en elle-même probable. Bon. Alors, cela dit, ce n'est pas cette dérive rhétorique du discours darwinien qui m'intéresse ici, mais le sens précis. Donc, ce discours rhétorique qui consiste, dont on a à juste titre dit qu'il consistait à remplacer le rôle, à remplacer le Dieu providentiel dans le discours de la théologie naturelle, dans le discours de l'histoire naturelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est le sens précis que prend l'expression de Darwin de pouvoir prédominant. Car il y a ces envolées rhétoriques, mais ce concept joue aussi un rôle opérationnel dans la théorie darwinienne. Darwin parle d'un pouvoir dans les passages où il est rigoureux. Il emploie une formule qui peut paraître plus forte, mais qui est en réalité plus modérée. Il parle d'un pouvoir prédominant de la sélection naturelle. Si je pouvais avoir le texte, merci. Paramount power. Paramount, comme dans les films, vous savez, de la célèbre compagnie. Paramount qui ne signifie pas exclusif, mais prédominant. Quelque chose de plus important qu'autre chose, mais pas la seule chose. Voici ce qu'il dit donc encore une fois dans La variation des animaux et des plantes, en 68. J'ai parlé de la sélection comme d'un pouvoir prédominant, quoique son action dépende absolument de ce que nous appelons par ignorance la variabilité spontanée ou accidentelle. Donc, il y a plusieurs choses qui modifient les organismes. Il y a des variations spontanées pour toutes sortes de raisons, hérédité des caractères acquis, corrélation de croissance et d'autres choses. Et puis, il y a la sélection qui est un autre facteur de modification. Le propre de la sélection étant d'être un pouvoir de modification qui s'appuie sur les autres sources de variation. Là, c'est un vocabulaire plus précis hein, que les envolées que j'ai citées tout à l'heure. Les variations de chaque créature sont déterminées par des lois fixes et immuables, dont Darwin dit par ailleurs qu'on ne les connaît pas. Mais ces lois, les lois qui font que les organismes varient d'individu à individu dans leurs propriétés transmissibles, par hérédité. Ces lois n'ont aucun rapport avec la créature vivante qui résulte graduellement du pouvoir de la sélection, que ce pouvoir soit naturel ou artificiel. Bien que la variété soit absolument nécessaire, il nous suffit d'observer des organismes complexes pour comprendre que la variabilité est dans une position subordonnée par rapport à la sélection. Alors ça, je dirais que c'est une doctrine qui a traversé les temps et qui fait partie du lot commun de la biologie évolutive d'aujourd'hui. C'est la définition même, au fond, de ce que signifie opérationnellement la sélection naturelle. La sélection présuppose des variations héréditaires, des différences dans les populations héréditairement transmissibles, et elle agit a posteriori comme un facteur régulateur dans ces populations. Darwin ne dit d'ailleurs jamais que la sélection naturelle serait la seule force qui oriente le changement évolutif. Il dit que c'est la force qui prédomine. Bon. Autrement dit, donc, si la sélection est un pouvoir prédominant, c'est au sens où elle intervient comme un facteur régulateur a posteriori, capable donc de l'emporter sur les autres facteurs de modification, puisqu'elle intervient après. Quel est le rapport entre la notion de pouvoir prédominant de la sélection et les propos épistémologiques de Darwin sur la structure de sa théorie. Et je vais demander ici aux organisateurs de bien vouloir laisser un certain temps, je serais tenté même de dire jusqu'à la fin de la conférence, le schéma que je vais présenter ici. Je voulais faire diversion de temps en temps, je veux bien, mais je m'y référerai très souvent. Alors, il faut que ça... Il y a une machine là assez impressionnante. On m'a formé tout à l'heure, mais... Alors, c'est ça. Voilà. Bon, alors, pour que ce soit lisible, parce que pour que ce soit lisible, il faut agrandir. Alors, voilà. Ça va comme ça. Alors, je grandirai peut-être sur... Bon. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est un schéma qui récapitule tout ce que je viens de dire. Un schéma qui représente la stratégie de justification de la sélection naturelle que nous trouvons chez Darwin. Nous avons donc deux niveaux. Il faut bien voir ce schéma comme étant constitué de deux parties. Une hypothèse de sélection naturelle qui, envisagée comme simple hypothèse, on va essayer de... Voilà. Voilà. La simple hypothèse, c'est la conclusion d'un raisonnement sur le taux de reproduction, la limitation des ressources, donc ça c'est le principe malthusien, et l'effet de variation et d'hérédité. Donc c'est le premier étage de justification. Le second étage, c'est ce que Darwin appelle, c'est pas très lisible ici, mais c'est la théorie de la sélection naturelle, la théorie bien établie. Et c'est ce qui se produit une fois que non seulement on a rendu plausible l'existence d'un certain processus, mais que l'on explique à partir de ce processus un certain nombre de classes indépendantes de faits qui sont les boîtes figurant en bas de ce schéma. Alors, je vais essayer de les rendre un peu plus lisibles, c'est-à-dire les adaptations morphologiques, les adaptations comportementales, la distribution géographique des espèces, les extinctions, la divergence, les faits concernant le développement et l'évolution. Il y a un bouton... Ah, ben voilà, il fallait me l'indiquer, le bouton focus. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Hein. C'est mieux comme ça. Hein? Bon. Hein? Et enfin... Hein? Ah non, ça, je ne parlerai pas à l'envers. Hein, ça, non. Classification, non, non, ça, c'est pas la peine. Hein. Mais je vais... Alors, wide... Voilà. Bon. Ça, c'est la structure de justification de l'hypothèse. Alors, comment intervient la... Alors, là, ce que j'ai mis, c'est pouvoir prédominant de la sélection. Les propos sur le pouvoir de la sélection dans ce schéma général. C'est une chose qui n'a pas été beaucoup remarquée, qui n'a été pas du tout, en réalité, par les commentateurs. Mais il se trouve que ce qui semble le plus audacieux dans le discours darwinien, vous savez, ce pouvoir de la sélection qui modifie admirablement en tout point de l'espace et du temps les organismes de manière à les mieux adapter, c'est juste un petit secteur dans la structure de justification de l'ensemble. Les adaptations instinctuelles et morphologiques que j'ai figurées ici, c'est cela et cela seul que Darwin appelle le qualifie comme pouvoir de la sélection, que ce pouvoir soit celui de la sélection artificielle, ça c'est le modèle analogique là-haut, soit celui de la sélection naturelle. Donc, il faut comprendre que la sélection naturelle a un effet direct, c'est la modification adaptative des organismes, et c'est là que Darwin a ses grandes envolées lyriques hein, sur le pouvoir de la sélection, mais cette sélection intervient dans une reconstruction globale de l'histoire naturelle, dans laquelle elle joue comme un principe éloigné, mais un principe qui rend intelligible beaucoup d'autres choses, l'allure de la documentation fossile, tels que les paléontologues les trouvent, la distribution géographique des organismes dans les terres, les océans, etc., les extinctions de groupes, les phénomènes de divergence, les rapports entre embryologie et évolution, et enfin l'allure générale de la classification. Alors, je conclue, et je conclue sur cette première moitié de l'exposé, en précisant pourquoi j'ai fait ce long commentaire sur Darwin. C'est qu'en réalité, nous voyons que si nous pouvons utiliser ce schéma pour réapprécier les débats contemporains sur le darwinisme ou l'antidarwinisme dans la théorie de l'évolution. En effet, il y a deux manières de contester le principe de sélection naturelle. L'une de ces manières consiste à dire, ben oui, nous avons bien là une grande théorie, une théorie tellement ambitieuse que c'est celle qui peut prétendre le plus à unifier l'ensemble de la biologie, y compris dans le contexte d'aujourd'hui. Cette théorie, quoique une théorie un peu floue, c'est une théorie qui unifie certainement davantage que l'approche, par exemple, biochimique ou moléculaire de la vie. Cette théorie, donc, la première manière de contester le principe de sélection naturelle, c'est de dire, eh bien, cette théorie, elle ne rend peut-être pas compte de toutes les boîtes que nous avons en bas. Par exemple, peut-être qu'elle rend très bien compte des adaptations, mais est-ce que c'est un principe suffisant pour expliquer les extinctions? Est-ce que c'est un principe suffisant pour expliquer l'allure de la classification, etc., etc. Donc, il y a une manière qui consiste à dire que cette théorie ne remplit pas, au fond, ses ambitions. Le principe n'a pas la capacité unificatrice et explicative qu'on lui confère. La seconde manière de faire, qui est plus radicale, mais beaucoup plus rare, consiste à dire que la sélection naturelle ne produit pas automatiquement de l'adaptation, ce qui est beaucoup plus redoutable dans l'occurrence. Et ça, c'est le second genre de critique. Je passe donc plus rapidement, mais je crois que vous aurez compris l'esprit de cette conférence, au débat contemporain. Deux manières donc d'être darwinien ou non darwinien, comme on voudra aujourd'hui. L'une consiste à accepter ou rejeter l'idée selon laquelle la sélection naturelle est le principe clé de l'explication de toutes les classes de phénomènes constituant l'histoire de la vie. L'autre est d'accepter ou de rejeter la notion selon laquelle la sélection est capable d'améliorer automatiquement les adaptations des organismes. Je me contenterai ici de donner une idée de ces deux genres de critiques dans la biologie évolutive des 25 années écoulées. Premier genre de critique, les critiques qui portent sur la capacité explicative de la sélection naturelle, c'est-à-dire la prétention de la sélection naturelle à rendre compte de toutes les boîtes et éventuellement de quelques autres que nous avons sur ce schéma. La plupart des critiques adressées à la vision darwinienne de l'évolution depuis les années 70 tombent dans cette catégorie. C'est en général ce qu'on a en tête lorsqu'on dit « le darwinisme est mort ». Elle consiste fondamentalement à admettre que la sélection naturelle est une explication satisfaisante des adaptations, mais à dire que ce n'est pas un principe suffisant, ni même parfois pertinent, pour expliquer telle ou telle autre grande classe de phénomènes évolutifs. Vous voyez à quel point il est important de prendre au sérieux l'expression de théorie dans théorie de la sélection naturelle. Les débats des 30 dernières années sur la macroévolution ont été un lieu privilégié de ce genre de critique. Les travaux de David Rope, dont un livre a été récemment traduit en français, un livre sur les extinctions, me serviront ici de cas exemplaire, car ici, la structure de la critique est particulièrement claire. Ce que Rope, donc paléontologue, membre de l'Académie des sciences de Washington, conteste, c'est l'interprétation darwinienne classique des extinctions. L'interprétation darwinienne classique des extinctions consiste à dire ceci. À mesure que la sélection naturelle transforme les espèces, en vertu d'une concurrence entre individus au sein de l'espèce, certaines espèces se révèlent plus aptes ou moins aptes que d'autres à résister dans leur compétition avec d'autres espèces. Autrement dit, certaines espèces progressent plus ou moins vite du fait de la sélection naturelle, et donc elles voient leurs effectifs se réduire ou s'augmenter. Si les effectifs se réduisent, elles finissent par s'éteindre. Alors, dans cette conception des extinctions, le phénomène de l'extinction des espèces est causé par des facteurs principalement, voire même exclusivement, biotiques. C'est-à-dire que l'extinction des espèces est une conséquence, au fond, d'une course résultant de la sélection naturelle à l'intérieur des espèces. Rope ne conteste pas d'ailleurs que la plupart des extinctions banales d'espèces s'expliquent de cette manière. Mais il refuse que toutes les extinctions, en particulier les extinctions de masse, comme celle par exemple du Permien, ou celle qui a fait disparaître à la fin du secondaire les dinosaures, il y en a beaucoup d'autres en réalité, il conteste que les extinctions de masse s'expliquent de la sorte. On sait en effet comment, avec d'autres paléontologues et physiciens, il a proposé d'expliquer les extinctions de masse par des perturbations brutales de l'environnement physique, par exemple des refroidissements massifs, ou encore les effets de la collision d'un astéroïde de grande taille avec la Terre, donc par des facteurs non biotiques. Et le raisonnement consiste à dire que, bah, par exemple, à telle ou telle période, 80-90% ou même davantage des espèces sur la Terre s'éteignent sans égard, en réalité, à leur capacité adaptative. Ça touche un petit peu au hasard en fonction de l'environnement qu'elles habitent. Le phénomène de l'extinction est alors expliqué par des raisons qui ne tiennent pas à la concurrence entre les espèces et à leur capacité propre à progresser par sélection naturelle. Cette interprétation a défrayé la chronique, et d'ailleurs davantage que la chronique, car j'ai pu constater récemment qu'elle était maintenant, alors qu'elle était maintenant couramment enseignée dans les programmes, dans les classes des écoles secondaires. Je ne la mentionne que pour bien comprendre la nature du défi adressé au darwinisme. Rope déclare en effet qu'il ne conteste pas, à la fin du livre, il ne conteste absolument pas la sélection naturelle de Darwin. Je cite, « Je ne conteste aucunement la sélection naturelle de Darwin ». C'est curieux quand même. Il dit, « Celle-ci est la seule explication possible des adaptations ». Donc il est, en ce sens, parfaitement darwinien. Mais il ajoute que la sélection ne saurait suffire à elle seule à expliquer les extinctions de masse, et aussi, s'il vous plaît, l'image, les extinctions et aussi les phénomènes de divergence, car les grandes explosions de groupes se produisent précisément lorsqu'il y a, au fond, lorsque des niches écologiques se trouvent importantes, se trouvent libérées par des extinctions. Donc la manière d'être darwinien, non darwinien, qui est celle d'Europe, consiste à dire, au fond, je contexte que la sélection naturelle explique ces deux boîtes, pour tout le reste et en particulier pour les adaptations, je suis pleinement darwinien. Alors, à partir de cet exemple, il est facile de comprendre le sens d'autres proclamations non darwiniennes. Pratiquement toutes les boîtes qui figurent, excepté les adaptations, sur le schéma que j'ai projeté tout à l'heure, ont fait l'objet d'attaques semblables. Je ne vais pas ici les récapituler une à une, je mentionne que c'est la manière dont a fonctionné la critique majeure du darwinisme depuis environ 30 ans. Deuxième genre de critiques, les critiques portant sur le pouvoir adaptatif de la sélection. Ce sont des critiques plus rares dans la littérature évolutionniste moderne. Elles étaient très fréquentes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. À ce moment-là, la manière courante de contester le darwinisme, c'était de dire que la sélection naturelle n'est pas la bonne explication des adaptations. Faisait donc par exemple valoir soit l'hérédité des caractères acquis, donc des schémas lamarckiens, soit encore une orthogenèse plus ou moins miraculeuse qui produisait des adaptations de plus en plus raffinées en vertu d'une tendance interne des lignées d'organismes. Donc au début du siècle, il était très fréquent de contester le darwinisme en refusant l'idée que la sélection produit de l'adaptation. À l'époque contemporaine, ce genre de critique est devenu extrêmement rare, sauf dans un contexte de travail précis, qui est celui de la biologie théorique, en particulier la génétique des populations. Et la critique consiste, je ne peux pas décemment, dans le contexte de cette conférence, exposer en détail de quoi il s'agit. L'esprit de cette critique consiste à pointer toutes sortes de bizarreries qui se présentent lorsque l'on cherche à formaliser la sélection naturelle, donc à produire des algorithmes mathématiques qui décrivent en quelque sorte abstraitement le phénomène de sélection naturelle. Il y a 50 manières de le faire, mais il existe beaucoup de choses contre-intuitives, beaucoup de choses paradoxales qui consistent à dire, par exemple, que dans telle et telle condition, la sélection naturelle diminue l'adaptation globale des organismes, c'est-à-dire la fitness des populations. Une autre manière de procéder consiste à pointer les effets propres de la complexité des systèmes vivants et à dire que peut-être pas dans le détail, mais à une grande échelle, beaucoup de phénomènes évolutifs ne seraient pas explicables par la sélection naturelle, mais par des contraintes organisationnelles, voire même des contraintes de complexité tout simplement, qui font que l'évolution irait de toute façon vers un certain nombre d'attracteurs, qu'il y ait sélection naturelle ou qu'il n'y en ait pas. Ces modèles sont extrêmement troublants, car ils imposent de très très sérieuses limites, évidemment, à la thèse darwinienne selon laquelle la sélection naturelle produit de l'adaptation et est susceptible donc, en toutes circonstances, de modifier les organismes. Je conclus. Depuis près de 30 ans, un débat récurrent sur la validité du darwinisme s'est développé, qui a engendré beaucoup de confusion. L'enjeu précis de ce débat n'est d'ailleurs pas toujours bien clair. Parfois, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Parfois, c'est une strate plus ancienne ou plus récente de l'interprétation darwinienne de l'évolution. Dans cette communication, j'ai délibérément évité de parler de la théorie synthétique, c'est-à-dire de la version moderne du darwinisme. Et je me suis limité à la simple question suivante. Que peuvent signifier les qualificatifs de darwinien et non darwinien dans le contexte du discours évolutionniste contemporain? Le darwinisme, en vertu de sa désignation même, est une entité historique. Rien n'implique a priori que ce terme est recouvert des engagements théoriques homogènes. J'ai néanmoins fait le pari que la référence obsessionnelle des biologistes de l'évolution à Darwin a une cohérence conceptuelle. C'est dans cet esprit que j'ai proposé un critère simple pour évaluer les proclamations darwiniennes et anti-darwiniennes. Il y a deux manières d'être non-darwinien. L'une est de contester le schéma de reconstruction de l'histoire naturelle proposé par Darwin. L'autre consiste à contester l'universalité du pouvoir adaptatif de la sélection. Une telle contestation de la sélection, je vais abréger un petit peu, il y aurait une autre manière d'envisager les querelles récurrentes pour et contre Darwin. Le mot darwinisme ne renvoie pas seulement, en effet, à des débats internes à l'histoire de la biologie. Depuis ses origines, il a eu partie mêlée avec des pans entiers de la culture contemporaine. Il suffit de se référer au rôle qu'il a joué, par exemple, dans le discours économique, dans les idéologies politiques, dans la philosophie et dans des débats de nature théologique. C'est là, assurément, un facteur majeur de la popularité de ce mot que l'on ne peut ignorer. Je n'ai pas traité délibérément de cet aspect important de la question. Il est vraisemblable, en réalité, que chez les biologistes eux-mêmes, les débats pour et contre Darwin ont été en partie canalisés et entretenus par des controverses de nature manifestement idéologique. Cet aspect familier de la question, et assurément socialement important, ne doit pas faire oublier cependant la dimension proprement théorique des querelles sur le darwinisme. Et je voudrais insister sur ce point, car on pourrait m'accuser ici d'une certaine légèreté qui consiste à dire, voyez, vous avez quelque chose qui est tellement important dans le débat social et vous venez nous embêter avec des pinaillages sur des notions théoriques, des formalismes, des querelles proprement théoriques. Je crois que dans le contexte d'un développement sans précédent dans l'histoire humaine des biotechnologies, les débats théoriques sur l'évolution, avec leur charge passionnelle propre, leur charge théorique donc, sont là pour nous rappeler qu'aujourd'hui comme hier, la science n'est pas seulement un ensemble de recettes pratiques pour aménager le confort de la vie quotidienne et le pouvoir de ceux qui en ont, mais une tentative aussi pour rendre intelligible la nature, tentative indéfiniment ouverte et légitimement polémique.